Travailleuses, travailleurs, chers amis, au nom de tous mes camarades de lutte ouvrière, je vous salue chaleureusement. L'écrasante majorité du monde du travail est hostile à la loi El Khomri. Depuis plus de 2 mois, des centaines de milliers de travailleurs le disent en faisant grève et en manifestant. À l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a pas trouvé de majorité pour la voter. Qu'à cela ne tienne, Hollande et Valls ont dégainé l'article 49.3. Cette loi sera donc adoptée sans vote du Parlement. Le peuple a le pouvoir, nous dit-on. Il l'exercerait en élisant le président de la République et les députés censés voter les lois. Mais Hollande a-t-il été élu pour démolir le Code du travail ? A-t-il été élu pour augmenter la TVA, pour généraliser le chantage à la compétitivité ? A-t-il été élu pour faire cadeau de 41 milliards au patronat ? Non, ça, c'était le programme de Sarkozy. Et il y aurait eu un vote majoritaire à l'Assemblée, que cela n'aurait pas été plus démocratique. Parce qu'on le voit, tous ceux qui se targuent d'être les représentants de la nation ne représentent qu'eux-mêmes. Ils veulent préserver leur poste et leurs privilèges et ils se moquent bien de ce que pense la majorité de la population. Nous sommes de ceux qui n'avons jamais placé notre confiance dans Hollande. Les rares à avoir refusé d'appeler à voter pour lui au second tour en 2012 pour avertir les travailleurs qu'il trahirait le peu qu'il avait promis. Mais comme ses électeurs, nous sommes révoltés par une telle arrogance et un tel cynisme. Cette loi El Khomri devrait s'appeler la loi Gattaz, parce qu'elle a été écrite par quelques hauts fonctionnaires sous la dictée du grand patronat, et ce, bien avant que Myriam El Khomri ne soit nommée au ministère du Travail. Hollande et Valls y ont rajouté leur petite touche personnelle pour essayer de faire passer la pilule auprès des travailleurs et des jeunes qui manifestaient. Mais c'est bien le grand patronat qui a commandé cette loi, pour avoir les mains plus libres encore, pour licencier plus facilement, pour fixer le temps de travail, les congés et les repos comme il l'entend. Et même s'il pleurniche encore, parce que comme un enfant gâté, il n'en a jamais assez, il a obtenu l'essentiel de ce qu'il demandait. Au-delà de cette loi, nous avons là un exemple du mode de fonctionnement de l'État et de la classe politique. Les lois ne naissent pas dans la tête des ministres ou des députés. Elles sont conçues dans les réunions du MEDEF, dans les conseils d'administration des Peugeot, Dassault, Bolloré, Arnault et autres Muliez. Ce sont eux qui ordonnent. Et tous les gouvernements exécutent, qu'ils soient de gauche ou de droite. Parce que pour tous ces dirigeants, gérer les affaires de l'État, c'est gérer les affaires de la bourgeoisie. Et regardez comment Hollande se réjouit de ce que les affaires des capitalistes prospèrent. Il pense même que cela lui donne la légitimité pour repartir en campagne pour 2017. Et il en a même tiré son slogan « Ça va mieux ». Mais ça va mieux pour qui ? La minorité capitaliste n'a jamais été à plaindre. Et que cela aille encore mieux pour elle, on veut bien le croire. Mais une poignée de riches parasites ne fait pas un pays. La majorité de la population est composée de travailleurs dont les conditions de vie empirent à cause du chômage, de la précarité et des bas salaires, de retraités qui ont vu leur pouvoir d'achat amputé par la politique de Hollande, de familles populaires qui subissent de plein fouet les coupes budgétaires dans les hôpitaux et les collectivités locales parce que le gouvernement a arrosé le grand patronat avec l'argent de l'État. D'ailleurs, Où est le million d'emplois promis avec le fameux pacte de responsabilité? Les 41 milliards versés aux entreprises ont servi à augmenter les dividendes des grands actionnaires, à verser des salaires insolents au PDG, alors que tous les salariés en CDD, en intérim ou même en CDI subissent plus de flexibilité, alors que partout les cadences se sont intensifiées avec des suppressions d'emplois, des blocages, voire des baisses de salaires, alors que partout on fait aux salariés le chantage à la compétitivité. Eh bien voilà le bilan de Hollande. Il peut s'en vanter auprès des plus riches, il peut croire en sa bonne étoile, mais c'est un bilan qui ne peut que révolter les classes populaires. Dans le marasme généralisé, 1% ou 1,5% de croissance font figure de reprise. Mais le capitalisme est en crise. Une crise dont on ne sortira pas parce que le système est à bout de souffle. Il a atteint ses limites. Sauf voler les parts de marché à leurs concurrents, se racheter les uns les autres et spéculer, les bourgeois ne peuvent pas développer leurs affaires. Ils ne peuvent accroître leurs profits qu'au travers d'une guerre de classe féroce qui fera de plus en plus de victimes du côté du monde du travail. Et ces capitalistes trouveront auprès des Hollande, des Sarkozy et des Le Pen des serviteurs dévoués pour faire reculer encore plus les conditions de vie de la population laborieuse. Nous entrons dans une période électorale propice aux marchands d'illusions et aux faiseurs de miracles. Il faut que les travailleurs tirent les leçons du mandat de Hollande, qu'ils se souviennent aussi ou se fassent raconter les trahisons de Jospin et de Mitterrand. Des lois économiques puissantes s'imposent à tous ceux qui aspirent à gouverner. Ce sont les lois du profit, de la concurrence et du marché. Elles s'imposent même à ceux qui prétendent vouloir faire une politique plus favorable aux exploités, parce que les politiciens ne sont que des marionnettes aux mains de ceux qui ont le vrai pouvoir, le pouvoir économique. Alors, tous ceux qui occultent la toute-puissance de la bourgeoisie sur l'économie ou qui refusent à s'en prendre à sa domination se vouent à l'impuissance ou pire, à la servir et à trahir les intérêts des travailleurs. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au Brésil avec Lula, Dilma Rousseff et le Parti des travailleurs, parvenu au pouvoir sur la promesse d'une politique pour les plus pauvres. Il faut regarder ce qui se passe en Grèce avec Tsipras et son parti Syriza, qui a connu une ascension fulgurante en promettant une autre politique. Mais aujourd'hui, ce sont ces partis qui mettent en œuvre l'austérité. On peut inventer tous les partis que l'on veut. On peut parler de renouveler la politique, ses méthodes et ses têtes. La question reste celle-ci. Soit on se soumet à la bourgeoisie et aux puissances de l'argent, soit on se prépare à la combattre avec la seule force capable de lui tenir tête, les travailleurs mobilisés et conscients de leurs intérêts. C'est pourquoi nous ne participerons pas aux diverses tentatives pour ressusciter une gauche gouvernementale, qu'elles viennent de Jean-Luc Mélenchon, de Montebourg, des écologistes ou du PCF. Car cela revient à refaire ce qui échoue lamentablement sous nos yeux. Nous voulons reconstruire un parti ouvrier qui mette en avant les exigences des travailleurs, des chômeurs, des retraités. Un parti qui prennent position politique du point de vue des travailleurs et de leurs intérêts, pas des intérêts de la France, pas des intérêts des entreprises, car il s'agit toujours des intérêts de la bourgeoisie. Nous voulons un parti qui ne véhiculent pas d'illusions électoralistes, mais qui disent clairement que le seul moyen pour changer la société, ce sont les luttes des travailleurs eux-mêmes. Les salariés qui se sont mobilisés depuis plus de 2 mois contre la loi travail montrent comment les travailleurs doivent faire de la politique, par en bas, en discutant entre eux, en s'organisant et en se battant avec les armes à leur disposition, les grèves et les manifestations. Alors que depuis 4 ans, le monde du travail a subi en silence, désormais, la colère s'exprime. Dans toutes les entreprises, à l'échelle du pays, dans le public comme dans le privé, dans les grandes entreprises comme dans les petites, il y a eu des travailleurs qui se sont organisés, ont débrayé, fait grève, manifesté. C'est un gage d'avenir, car la politique et la vie des travailleurs changeront s'ils se battent contre toutes les attaques du gouvernement, s'ils inversent le rapport de force avec le patronat. Nous n'en sommes pas là. Mais il faut un début à tout. Et aujourd'hui, une fraction des travailleurs a retrouvé le chemin des luttes. Le mouvement de protestation a débordé le monde du travail avec des initiatives comme Nuit debout. Il a mobilisé une fraction de la jeunesse lycéenne et étudiante qui refuse, à juste titre, l'avenir de la précarité et d'exploitation que lui réservent le patronat et le gouvernement. On ne peut que s'en réjouir. Et encore une fois, il faut que la contestation se poursuive. Le recours au 49-3 est une provocation. C'est une raison supplémentaire de continuer la mobilisation. À partir de mercredi, malgré les tergiversations et le corporatisme de leurs organisations syndicales, une partie des cheminots devraient se mettre en grève. Les routiers, quant à eux, feront grève mardi. Cela se rajoute aux 2 journées appelées par les confédérations syndicales. Autant dire que le gouvernement n'en a pas fini avec cette contestation et il n'est pas trop tard. Souvenons-nous du bras de fer autour du CPE de Villepin en 2006. Le CPE avait été voté et même promulgué pour finir à la poubelle, parce que la mobilisation s'était maintenue. Alors il ne faut pas relâcher la pression. Le gouvernement a pu clore d'autorité le débat parlementaire, mais il ne peut pas enterrer la mobilisation parce qu'elle, elle dépend de nous. Revendiquons non pas de la gauche, mais du camp des travailleurs. Parler de la gauche, c'est mêler des salariés, des chômeurs, des femmes et des hommes des classes populaires avec des dirigeants politiques dévoués corps et âme à la bourgeoisie comme Valls et Hollande. La gauche elle-même est traversée par une frontière de classe. Car qu'y a-t-il de commun entre l'ouvrier qui vote à gauche et Macron, cet ancien banquier d'affaires devenu ministre, ou Cahuzac, qui avait choisi le PS pour faire de la politique, mais qui a caché sa fortune qu'il s'était faite comme chirurgien esthétique. Et c'est sans oublier ses grands patrons comme Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, qui se revendique de gauche. En politique, la gauche ne désigne plus qu'une écurie de politiciens sans rapport depuis longtemps avec les partis que le mouvement ouvrier avait fait naître. La véritable frontière ne passe pas entre la gauche et la droite politicienne. Elle passe entre le patronat et le camp des travailleurs. Il y a une variété de salariés. Il y a des ouvriers, des techniciens, des employés de bureau, des fonctionnaires, des ingénieurs, des enseignants, des aides-soignantes, des cheminots, des femmes de ménage et même des pilotes d'avion. Ils ne sont pas tous exploités au même niveau, mais ils ont un point en commun. Ils sont tous forcés de vendre leur force de travail pour vivre, leur force de travail manuelle pour les uns, intellectuelle pour les autres. Au lieu d'ouvriers ou de travailleurs, le patronat parle de collaborateurs, de chargés de clientèle, de team members, pour ne pas dire équipiers, parce que ça aussi, ça fait ringard. Mais la société reste dominée par les mêmes rapports sociaux, avec d'un côté un patronat tout-puissant qui se paye à coups de millions, et de l'autre, des travailleurs qui sont traités comme des pions. Oh, il y a plus de chômeurs que dans l'après-guerre. Et nous sommes loin du plein emploi des années 1960. Mais cela n'a été qu'une parenthèse dans l'histoire de la classe ouvrière. Le chômage a toujours fait partie intégrante de la condition ouvrière. Avoir un travail, être licencié et se retrouver au chômage sont les deux faces de la même pièce. Aujourd'hui, quand on alterne les périodes de travail en CDD ou en intérim et les périodes de chômage, on est un salarié, un chômeur, on est potentiellement les deux. Parce que le propre de la condition ouvrière est de dépendre du bon vouloir du capital. C'est le propre des travailleurs de n'être assuré de rien et pas même de pouvoir être exploité. Et pour trouver un travail, combien de femmes et d'hommes ont été forcés de changer de région? Combien sont forcés d'émigrer, de quitter leur pays, leur famille, d'adopter une autre langue? Aujourd'hui, des centaines de milliers de travailleurs traversent des déserts, des continents, des montagnes, des mers, au péril de leur vie, pour venir construire des immeubles, travailler dans des restaurants ou vider les poubelles à Paris. Alors oui, c'est aussi le propre de la classe ouvrière que d'être internationale et que de se mélanger toujours et encore. Alors, faire entendre le camp des travailleurs, c'est tout cela. C'est défendre les intérêts de la grande majorité de la population. C'est défendre les intérêts de ceux qui n'exploitent personne, mais qui produisent tout. C'est œuvrer pour l'émancipation des exploités. Et c'est affirmer que oui, les travailleurs sont capables de réorganiser la société sur des bases collectives et de construire un autre monde à l'échelle de la planète. Aujourd'hui comme hier, c'est d'abord dans les têtes que cela se passe. La bourgeoisie ne pourrait pas régner si elle ne dominait pas les esprits avec ses valeurs, l'individualisme et l'enrichissement effréné. Et face à elle, il n'y a plus de parti digne de ce nom pour la contrecarrer et porter d'autres perspectives. Pire, les partis que les travailleurs s'étaient donnés pour mettre en avant les idéaux révolutionnaires les ont trahis et discrédités. Le Parti socialiste a repris à son compte toutes les idées de la bourgeoisie et les relaye depuis longtemps dans les classes populaires. Quant au Parti communiste, qui a été de loin le plus grand parti ouvrier que la France ait jamais connu, il a abandonné toute perspective révolutionnaire en épousant la politique stalinienne. C'était la révolte, la combativité, le courage et le dévouement de ces militants d'entreprise qui faisaient la force et la réputation du Parti communiste. Tout cela a été dévoyé et gâché par sa direction. Nous célébrons cette année le 80e anniversaire des grèves de mai-juin 1936. Pendant ces grèves et ces occupations, alors que les travailleurs faisaient l'expérience de leur force collective et pouvaient commencer à envisager de faire tourner les usines sans patron, Maurice Thorez, le dirigeant du PC de l'époque, déclarait « Il faut savoir terminer une grève ». De la même façon, Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puis en mai-juin 1968, le PCF a mis tout son poids pour freiner la montée ouvrière et protéger l'ordre bourgeois. Le PCF n'a plus eu qu'un objectif, s'intégrer au système au travers des politiques dites d'union de la gauche. Au lieu de s'appuyer sur les combats que menaient ses militants, il a cultivé l'électoralisme, faisant croire que tout dépendait de l'élection de tel ou tel, que voter à gauche allait changer la vie des travailleurs. Autrement dit, pendant des décennies, le Parti communiste a été complice de l'imposture du Parti socialiste. Ce ne sont pas les travailleurs qui ont failli, mais les directions des partis qui prétendaient les représenter, en brouillant les consciences ouvrières et en écœurant jusqu'au meilleur de leurs militants. Le mouvement ouvrier s'est affaibli parce que sa direction a abandonné les idées de lutte de classe. Il faut reconstruire un parti qui défende ses idées. Les partis réformistes ont abandonné jusqu'à ces mots de travailleurs, de classe sociale. Mais les travailleurs sont là, et bien là. Ils sont indispensables au fonctionnement de la société. Ils font tourner la machine à profit et ils se battront à nouveau parce que ni le patronat ni le gouvernement ne leur laissent le choix. Alors, nous plaçons notre confiance dans les travailleurs, dans leur capacité collective à transformer la société par en bas. Dans le passé, ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire. Avec la Commune de Paris de 1871, mais aussi avec la Révolution russe de 1917, ils ont fait la preuve qu'ils pouvaient transformer la société, en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Oui, dans le passé, les travailleurs ont su faire de grandes choses et ils n'ont pas fui les grands combats. Eh bien, il leur faut un parti à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire, un parti communiste révolutionnaire. Le courant communiste révolutionnaire est faible, mais cela peut changer vite. Il se doit de maintenir ses idées vivantes. Il se doit d'être de tous les combats, des combats sociaux, mais aussi des combats politiques. C'est pourquoi, tout en étant convaincu que les élections ne peuvent pas changer notre sort, nous tâchons de nous y présenter à chaque fois et nous ferons encore le maximum pour faire entendre le camp des travailleurs lors de la prochaine élection présidentielle. Mes camarades m'ont confié la tâche d'être candidate pour cette élection. Mais il faut que ce soit notre campagne à tous. L'élection présidentielle a ce petit avantage que nos idées peuvent être entendues à l'échelle du pays, y compris là où nous n'existons pas ou si peu. Nous utiliserons toutes les possibilités médiatiques. Mais les rares fois où les journalistes télé ou radio seront censés me donner la parole, ils s'emploieront à la déformer et à la disqualifier. Il ne faut pas s'en étonner. Jamais les militants du mouvement ouvrier n'ont eu réellement accès aux moyens de diffusion de la bourgeoisie. Alors, le succès de cette campagne ne se fera pas par médias interposés. Il dépendra de notre activité militante, de notre force de conviction, de notre capacité à nous faire comprendre des nôtres. Il revient à tous ceux qui se retrouvent dans nos idées de les diffuser et d'en convaincre leurs amis, leurs collègues de travail, leurs voisins, leurs proches. Beaucoup de travailleurs, écœurés à juste titre par le spectacle donné par le Parti socialiste, la droite et le Front national, ne s'estiment représentés par aucun parti. Il nous faut nous adresser à eux et les entraîner à faire un vote de conscience de classe. Il y a beaucoup de discussions à mener, des arguments à apporter, des préjugés à combattre, des perspectives à ouvrir. Cette campagne sera réussie si des centaines de milliers de travailleurs votent pour leur camp, s'ils votent pour le camp des travailleurs. Et encore une fois, la lutte de classe n'est pas une invention des révolutionnaires. C'est le quotidien de millions de femmes et d'hommes. Le sentiment de classe existe dans le monde du travail. Il faut que nous le confortions politiquement. Il faut que ce sentiment de classe se transforme en conscience de classe, solide, forte, capable de résister aux pressions de la société bourgeoise et d'orienter les nôtres dans les combats qui se présentent. Propager ces idées et cette conscience fait partie des efforts nécessaires pour construire un parti. Un parti révolutionnaire peut grandir très vite s'il y a de grandes luttes sociales, lorsque les travailleurs seront déterminés à changer leur sort. Mais il ne se développera que s'il y a préalablement des militants capables de rassembler et d'aider à s'organiser ceux qui veulent se battre. Les élections sont des combats politiques. Elles nous donnent l'occasion de propager nos idées, de regrouper tous ceux qui sont prêts à s'impliquer dans la campagne et de rassembler au travers du vote autour du camp des travailleurs. Alors je compte sur vous tous pour nous aider dans cette campagne et pour avancer sur la voie du parti qui est nécessaire au monde ouvrier. L'élection se rapprochera, plus le Parti socialiste se servira de la menace du Front national et de la possibilité de sa possible élimination au premier tour pour faire chantage au vote utile. Nous ne combattrons pas le Front national par des combinaisons électorales. Le terreau du Front national, c'est la crise. C'est cette guerre de classe qui crée le chômage, le chacun pour soi. Alors, il nous faut être capables d'offrir des perspectives pour lutter contre le chômage, la précarité et les bas salaires. Il nous faut nous montrer les adversaires résolus de ce système fou. Les mois à venir doivent être l'occasion de s'expliquer avec ceux qui, autour de nous, sont tentés par le vote Front national et de leur dire qu'ils se trompent gravement. Un parti qui s'en prend aux immigrés, c'est-à-dire à des travailleurs, à d'autres exploités, est un parti qui ne peut être qu'un ennemi, et un des pires qui soit. Les idées les plus réactionnaires, les plus racistes, la défense du régime de Vichy, des guerres coloniales et même du fascisme, sont dans les gènes du Front national. Et même si Le Pen père a été écarté par sa fille, regardez comment la petite fille, Marion Maréchal Le Pen, cette grenouille de bénitier drague les royalistes. Et ces idées réactionnaires, eh bien, elles se renforceront si la crise s'aggrave. Alors oui, le Front national est un danger pour le monde du travail et un des pires qui soit. Mais encore une fois, compter sur la droite ou sur le Parti socialiste pour lui faire rempart, c'est se fourvoyer. Sur la politique sécuritaire et l'état d'urgence, sur la politique de l'asile, le gouvernement donne du crédit au Le Pen en attisant les peurs, en renforçant les préjugés et les amalgames contre les étrangers. Alors oui, la situation politique est grave. Mais elle l'est parce que les travailleurs laissent la politique dans les mains des seuls représentants de la bourgeoisie, parce qu'ils ne se font pas entendre. Dès que le monde du travail se mobilise sur des bases de classe, et on le voit contre la loi El Khomri, le FN apparaît pour ce qu'il est, un chien de garde du capital. Alors, se battre pour mettre en avant les intérêts de classe des travailleurs est le seul et unique moyen de combattre l'influence de toutes ces idées nauséabondes. Crise économique, chômage de masse, guerre, terrorisme, crise des migrants, crise écologique. Les dirigeants actuels, qu'ils soient à la tête des multinationales, des grandes banques ou des États, sont non seulement incapables d'apporter quelque solution que ce soit, mais pire, ils poussent l'humanité entière vers le précipice. Les capitalistes qui dominent l'économie l'amènent dans le mur, comme les milliards qu'ils extraient de la production et de l'exploitation des travailleurs ne leur suffisent pas. Ils les jouent au casino de la finance. Autrement dit, plus nous travaillons, plus nous faisons d'efforts et de sacrifices, plus la spéculation augmente et plus nous risquons le krach généralisé. Y a-t-il plus fou que cette économie ? Il ne s'agit pas seulement du sort des travailleurs. Il s'agit de l'avenir de toute la société, en particulier celui qu'elle réserve à la jeunesse. Les jeunes des classes populaires sont ballottés de petits boulots en période de chômage, de stages non rémunérés en mission d'intérim. Pour espérer un emploi durable et un salaire à peu près correct, tout ce que l'État leur propose, c'est de s'engager dans la police ou dans l'armée. Autrement dit, ils ont le choix de servir de chair à patron ou de chair à canon. Bien sûr, la fraction de la jeunesse qui fait des études supérieures peut espérer mieux en décrochant un emploi de cadre, d'ingénieur, de médecin ou d'enseignant. Mais le problème est collectif. Le problème, c'est que même ceux qui peuvent tirer leur épingle du jeu le font au milieu d'un océan de misère et d'injustice. Alors, à tous ces jeunes, je veux dire qu'il y a un autre avenir. Ne cédez pas au conformisme. Exprimez votre révolte. Depuis plus de 2 mois maintenant, quelques dizaines de milliers de lycéens et d'étudiants l'ont exprimé, leur révolte. Une fraction de ces jeunes est en train de se politiser. Elle a découvert les brutalités policières, les manœuvres du gouvernement, les tergiversations et les retournements des directions syndicales. Et elle a découvert ce que vaut la démocratie bourgeoise. Eh bien, à cela, je veux dire, vous avez envie de changer le monde ? Tirez toutes les leçons politiques de la situation actuelle. Attelez-vous à comprendre les mécanismes et les rapports de classe qui régissent la société. Confortez vos convictions en découvrant les luttes passées des opprimés, de Spartacus aux grèves de mai-juin 1936. Enrichissez-vous de l'expérience du mouvement ouvrier et des idées de Marx, d'Engels, de Lénine, de Rosa Luxembourg, de Trotsky. Reprenez à votre compte les idées du courant communiste révolutionnaire. Ce capital politique résume les expériences de plus d'un siècle de luttes ouvrières vivantes. Des défaites, des victoires et des révolutions. C'est ce capital qui permettra demain de renverser le vieux monde et de mettre fin à ces inégalités et à toutes les vieilleries qui vont du racisme à la misogynie en passant par l'obscurantisme. Alors, rejoignez-nous dans le combat révolutionnaire pour que les générations futures puissent construire une société de justice et de fraternité, enfin débarrassée des classes sociales et de l'exploitation. Nous ne sommes pas condamnés à cette dictature des grands actionnaires. Ils sont à la tête d'un système aussi injuste qu'irrationnel. Il n'y a jamais eu autant de richesses. Et pourtant, on ne nous parle que de crise et de déficit. On nous explique qu'il faut accepter des sacrifices, accepter de vivre moins bien et de travailler plus longtemps que nos parents. Et c'est sans parler de ce qui se passe dans les pays les plus pauvres de la planète. Il faut mettre fin à l'obstacle que constitue la propriété privée des moyens de production, des usines, des banques, des transports et des grandes chaînes de distribution qui empêchent toute organisation rationnelle de l'économie. Mettre en commun ces moyens de production, c'est le sens du mot « communisme ». Ce mot a été dénaturé, mais il est un des plus riches de signification. Oui, en organisant collectivement et rationnellement l'économie, la lutte individuelle pour la vie pourrait enfin céder la place à la conscience du fait que l'humanité est une et indivisible et qu'elle a les moyens d'assurer une vie digne à chacun de ses membres. Et la seule force sociale capable de transformer la société dans ce sens, ce sont les travailleurs. Alors, engageons-nous dans ce combat en restant convaincus que tôt ou tard, ils chercheront le chemin vers un avenir meilleur. Il faut qu'ils puissent trouver celui qui mène vers le communisme.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Il passait.